Code d'économie.
Tractation pour la formation du prochain gouvernement. Les questions liées à l'économie nationale s'invitent également dans les discussions entre la première ministre et les acteurs des regroupements politiques de la majorité lors des consultations. Paralysie des activités socio-économiques à Beni au Nord Kivu. La synergie de mouvements citoyens et le groupe de pression ont appelé à des journées ville morte pour dénoncer la multiplication des attaques de rebelles de l'ADF. Bienvenue à tous. Comme vous le savez, des tractations sont en cours pour la formation du prochain gouvernement. La première ministre consulte les acteurs des regroupements politiques qui constituent la majorité parlementaire. Outre les questions sécuritaires, celles qui touchent à l'économie seront d'un intérêt majeur pour le gouvernement souminois tant attendu. Explication Cynthia Bachizi Nabizana.
À la sortie de son audience avec Judith Souminois Toulouka, Modesto Bahati rapporte que la première ministre insiste sur l'exécution parfaite du budget, surtout le budget d'investissement pour que le pays espère une croissance économique. Mais pour arriver à dégager une ligne budgétaire clairement établie pour les investissements, il faudra véritablement rationaliser les dépenses publiques. Cela passe par une réduction du train de vie des institutions et le respect de la chaîne de dépenses publiques avec un contrôle budgétaire en amont, ont toujours demandé de leur côté des acteurs de la société civile. Pour Julien Paluku, Vital Kamere et d'autres acteurs rencontrés par la première ministre, outre la sécurité et la paix, le deuxième défi épinglé est la lutte contre la pauvreté, et cela passe notamment par la diversification de l'économie qui dépend actuellement du secteur extractif, diversification pour arriver à une croissance économique réelle et qui se fasse ressentir dans l'assiette des citoyens. Il faudra également relancer le tissu industriel, réhabiliter les infrastructures routières pour mieux connecter le pays et travailler à réduire le déficit énergétique.
Au Nord Kivu, deuxième jour ce mercredi des deux journées ville morte décrétées par la synergie de mouvements citoyens et le groupe des pressions dans la ville de Beni. C'est pour dénoncer la multiplication depuis quelques semaines des attaques de rebelles des ADF dans certains quartiers et localités de la ville et territoire de Beni. Dans plusieurs quartiers de Beni, plusieurs activités restent paralysées sauf au centre-ville où une reprise presque normale des activités est observée. Marc Marofimbo a fait la ronde de la ville de Beni. Voici son reportage.
Dans les quartiers Kalinda, Ngongolio, Boutili, Mankampagne, Kabalaka et Kangaembi de la commune de Mulekera, considérés comme les bastions des groupes de pression de Beni, des barricades sont encore visibles dans plusieurs rues et avenues. Boutiques, magasins et petits commerces sont fermés depuis lundi, à l'exception des officines pharmaceutiques. De jeunes manifestants interdisaient encore ce matin la circulation aux engins roulants en s'apprenant à leur conducteur. Pour se rendre au travail ce matin dans la ville de Beni, il fallait s'armer de patience. Plusieurs écoles de la ville restent également fermées. Dans le centre commercial de Matongé, les activités tournent au ralenti. En revanche, au marché central de Kilokwa, toutes les activités se déroulent normalement. Au centre-ville de Beni, une reprise normale des activités a été observée avec une circulation fluide sur le boulevard Nyamwisi, l'artère principale de la ville, ainsi que l'ouverture de plusieurs commerces. Cependant, des groupes de jeunes, en majorité des mineurs, ont attaqué des échangeurs de monnaie le long du boulevard Nyamwisi, ce qui a créé une panique dans la ville. Signalons que la police est déployée dans certains points chauds et stratégiques de la ville. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
La 8e édition de la semaine française de Kinshasa se tiendra du 24 au 26 avril prochain. Le président de la Chambre du commerce et d'industrie franco-congolaise l'a annoncé mardi à Kinshasa lors d'une conférence de presse conjointe avec l'ambassadeur de France en RDC. Ce salon professionnel annuel placé sous le thème « Les leviers de la croissance en RDC » va réunir une trentaine d'entreprises françaises qui viennent à la rencontre des entreprises congolaises dans le but d'établir la coopération bilatérale, notamment le B2B sur le plan économique. Grâce à Mzati.
Cette nouvelle édition de la Semaine française de Kinshasa s'inscrit dans la continuité du Forum économique de Kinshasa tenu en mars 2023, affirme Bertrand Bisengimana, président de la Chambre du commerce et d'industrie franco-congolaise, structure organisatrice de ces salons professionnels en partenariat avec l'ambassade de France. Il indique qu'il s'agira non seulement des rencontres entre les entreprises des deux pays, mais aussi entre les entreprises françaises et d'autres institutions étatiques de la RDC. L'objectif principal de cette rencontre est de mieux faire connaître la RDC auprès des entreprises françaises, mais aussi permettre aux entreprises françaises de venir en RDC pour prospecter, investir ou encore proposer des biens et des services. Plusieurs thématiques seront abordées, ajoute-t-il, parmi lesquelles les mines, le numérique, la vie durable, la santé, l'agroalimentaire, la logistique, le transport, l'énergie et les infrastructures. Pour Bruno Aubert, ambassadeur de France en RDC, la semaine française de Kinshasa est la manifestation d'une confiance forte de la France dans les potentiels économiques de la RDC. À noter que c'est à l'ouverture de la semaine française qu'interviendra le lancement à Kinshasa de la communauté Afrique-France Entrepreneur. Cette communauté est issue du sommet Afrique-France de Montpellier d'octobre 2021, annoncent les organisateurs.
Écho d'économie.
Place à présent à l'invité de l'économie. Dans un communiqué conjoint du 12 avril courant, signé Observatoire de la dette publique, ODEP, et Ligue congolaise pour la lutte contre la corruption, LICOCO, les deux organisations de la société civile demandent au ministère du Développement rural à des explications au sujet du contrat qu'il a signé le 31 mai 2022 avec le consortium Sivers Construct Sotrod Water pour installer 1000 stations d'eau et lampadaires dans plusieurs localités de la RDC. Le taux de réalisation du travail par le consortium est très faible, pendant qu'il a déjà empoché plus de 80 millions de dollars payés par le ministère des Finances. Ernest Pararo, président de la LICOCO, invité de l'économie, s'entretient à ces sujets avec Daniel Tambizoni.
Ernest Pararo, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous et votre organisation, Sœur l'ODEP, qui est l'Observatoire de la dette publique, vous venez de publier un communiqué le 12 avril courant. Et dans ce communiqué, vous demandez un peu plus de lumière à l'hôtel de ville qui avait signé un contrat avec un consortium d'entrepreneurs pour installer 1000 forages et de dispositifs solaires à Kinshasa. Qu'est-ce que vous voulez savoir justement?
Effectivement, comme vous le savez, ce n'est pas l'hôtel de ville, mais c'est le gouvernement à travers le ministère de du développement rural qui a signé un contrat avec une société dénommée Steve Construction pour effectivement installer plus de 1340 forages dans le milieu rural en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté, selon le ministère des Finances lui-même, qui a payé une avance de 80 millions, le taux d'exécution est à 7%. Et le prix des forages pose problème étant donné qu'il n'y a pas eu évaluation indépendante pour savoir le prix de chaque forage. Or, le contrat qui est signé, c'est à peu près 297 000 dollars par forage que nous estimons, nous, avec les collègues et toute la société civile, nous estimons effectivement que ce prix est tellement cher. Deuxièmement, nous ne savons pas où est-ce que par province, où est-ce qu'on va installer ces forages. Il serait mieux que le ministère du Développement Rural ou le ministère des Finances ou l'entreprise qui a bénéficié de ce contrat puisse publier la liste des sites où on va installer les forages pour que les citoyens puissent faire les suivis.
Donc, il n'y a pas une cartographie claire des endroits où seront installées ces infrastructures.
Effectivement, parce que jusqu'à présent, nous avions à Kinshasa, terre jaune, on ne sait pas là où ça se trouve. Nous ne voyons pas, il fallait qu'on publie en province pour que les collègues qui sont en province et les citoyens puissent faire les suivis. Et s'il y a mal construction, si on construit mal, les gens peuvent adresser des plaintes pour auprès des autorités afin que la société puisse réaménager la construction. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous ne connaissons pas, on ne sait pas, alors que les bénéficiaires sont les citoyens. Et s'il y a des pratiques de détournement ou de corruption, il faudrait que effectivement les cours et tribunaux se saisissent pour punir ou sanctionner les coupables.
Mais ce contrat, je pense, comme vous l'avez dit dans le communiqué, a été signé l'un au mois de mai de l'année 2022, l'autre même en 2021. Pourquoi avoir attendu beaucoup de temps comme ça pour le dire aujourd'hui, pour le dénoncer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous craignez?
Effectivement, lorsqu'on signe le contrat, ce n'est pas le même jour qu'on va commencer à travailler. Mais effectivement, comme vous le dites, le taux d'exécution pour le montant qui a été payé de 80 millions, on devrait recevoir à peu près 250 forages. Et pour les lampadaires, on devrait installer plus de 200 lampadaires dans la commune de Kasavubu, Giringiri et Bumbu. Mais qu'est-ce qu'on constate? On a seulement installé une petite partie qui ne représente même pas un tiers des lampadaires sur l'avenue Chaba à Kasavubu. L'avenue de Ngiringiri et Bumbu, on n'a pas encore, alors que les sociétés ont reçu de l'argent. Pour les lampadaires, la société a reçu déjà 100% du paiement, et pour les forages, 80 millions représentent déjà plus de 30% du montant total du projet. Nous pensons que le taux d'exécution est tellement faible et cela suscite effectivement des interrogations de la part du gouvernement et de la part des citoyens. Et c'est la responsabilité du gouvernement et des institutions de contrôle de faire maintenant leur travail pour savoir où se trouvent les problèmes et que les sociétés qui ont bénéficié de l'argent puissent continuer et réparer les dégâts.
Mais si vous passez, par exemple, dans la commune de Bumbu, sur l'avenue Landou, partant de l'avenue 24 jusque sur l'avenue Chaba, il y a quand même des lampadaires qui sont placés là. Ce n'est pas dans le cadre de ce marché que vous décrivez aujourd'hui, c'est une autre entreprise qui a placé ça, les lampadaires solaires qui éclairent la nuit.
Je pense oui, ce n'est pas dans le cadre du projet, étant donné que les lampadaires qui sont là existent depuis avant 2021.
Vous, comme société civile, vous avez mené des actions à l'endroit du gouvernement, mais qu'est-ce que vous demandez à l'entreprise qui a déjà empoché l'argent du trésor public, l'argent du contribuable congolais?
Par exemple, pour l'entreprise qui devrait mettre les lampadaires, ils ont montré qu'ils sont défaillantes. Je pense qu'on devrait les ravir les contrats et l'attribuer à une autre société qui va continuer avec le travail et que cette entreprise rembourse l'argent déjà empoché. Je sais qu'actuellement, il y a des enquêtes judiciaires. Je ne peux pas entrer dans ce domaine étant donné qu'il y a des enquêtes et nous soutenons effectivement ces enquêtes-là. Et si l'entreprise n'a pas empoché l'argent mais n'a pas fait le travail, il doit être sanctionné et être blacklisté en RDC pour qu'il ne puisse plus bénéficier d'autres contrats à l'avenir.
Ernest Mpararo, président de la LICOCO, merci d'avoir répondu aux questions de Radio Okapi.
Écho d'économie de ce soir prend fin. Alain Goy était à la prise de son, Pierre Diassinois et Hervé Vauca à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.